Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus voyager en Europe sans le pass sanitaire européen. Dans un instant, notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bois, nous dira tout sur le mode d'emploi pour le récupérer. Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la restauration. Il est un maillon de la chaîne. Le doggy bag. Les restaurateurs ont l'obligation à compter d'aujourd'hui de vous en proposer si vous n'avez pas fini votre assiette. La nouvelle provocation du président turc entre en vigueur aujourd'hui. Le pays sort de la Convention d'Istanbul, premier texte au monde qui oblige les États à protéger les femmes des violences. Les trottinettes n'ont qu'à bien se tenir, surtout dans la capitale, devenue la bête noire des piétons parisiens. Elles sont dans le viseur de la mairie qui demande aux opérateurs de brider leur vitesse.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui le réalisateur Paul Verhoeven et l'actrice Virginie Efira pour le film Benedetta en compétition au Festival de Cannes.
France Inter.
Et à la veille d'un grand week-end de départ en vacances, Laurence, voilà le pass sanitaire européen pour voyager plus librement.
Plus librement car il peut être lu aux frontières de 31 pays. L'UE plus la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Nous rejoignons notre correspondante à Bruxelles. Bonjour Angélique Bois.
Bonjour.
Alors Angélique, comment récupérer déjà ce pass sur son smartphone ou sur papier ?
Eh bien, si vous avez déjà émis votre certificat, il faut juste le réactualiser au format européen. Dans la fonction carnet de l'application Tous Anti-Covid, il suffit d'un clic. Pour l'obtenir en version papier, il faut en revanche aller ou retourner sur la plateforme Amélie pour la preuve d'un vaccin, sur le portail CIDEP avec un S pour un test Covid. Alors, si vous avez déjà été malade, certains pays, mais pas tous, acceptent aussi un test positif ancien pour vous faire entrer sans vaccin ni nouveau prélèvement. L'acceptation des tests rapides varie là aussi d'un État à l'autre. Certains, fortement dépendants du tourisme, comme la Grèce ou l'Espagne, l'acceptent, mais pas d'autres, comme la Belgique. Enfin, vérifier l'âge des enfants qui peuvent voyager sans contrainte. Là aussi, il y a des différences.
Autrement dit, Angélique, il faut toujours se renseigner avant de partir.
Ah oui, pour éviter les mauvaises surprises, il faut aller sur le site diplomatie.gouv.fr ou bien le portail ReopenEU, rouvrir l'UE. Prenez soin tout de même de regarder les exigences lors de votre départ en vacances, mais aussi les conditions de votre retour en France. Il faut le rappeler, ce QR code, c'est d'abord un gain de temps. Il faudra au douanier une seconde, là où la lecture de documents papier dans des langues parfois différentes crée souvent de gros embouteillages. Et puis, c'est un document infalsifiable aussi qui permettra d'éradiquer les faux tests.
Angélique Bois, notre correspondante à Bruxelles. Ajoutons que l'Union européenne est en discussion avec le Royaume-Uni et les États-Unis pour qu'ils reconnaissent eux aussi ces documents. Et par ailleurs, les tests de dépistage du Covid-19 deviendront payants dès mercredi prochain pour les touristes étrangers venant en France. Il avait été question de leur gratuité dans un premier temps pour attirer davantage de touristes européens. Et puis depuis ce matin, les premiers voyageurs internationaux ont atterri sur l'île touristique de Phuket en Thaïlande. Leur dispositif au Thaïlandais permet aux voyageurs vaccinés de séjourner sur place sans passer par la case quarantaine. Beaucoup de changements pour notre vie de tous les jours à compter de ce 1er juillet. Hausse du gaz, plus 10% à cause principalement de l'envolée des cours. Les grandes surfaces, épiceries, cavistes ou tout autre magasin qui vendent de l'alcool à emporter devront également vendre des éthylotests. Jusqu'à présent, seules les discothèques et les épiceries de nuit étaient tenues d'en proposer à leurs clients. Et puis une autre nouveauté, et vous ne serez plus regardé de travers, ni même on vous prendra pour un radin au restaurant, car il s'agit de lutter contre le gaspillage alimentaire, sachant qu'une personne jette en moyenne 21 kilos de nourriture au restaurant par an. Alors à compter de ce jeudi, si vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, le restaurateur devra vous proposer un doggy bag pour rapporter vos restes à la maison. Philippine Oiselle.
Depuis 3 ans, Wang emballe les restes des repas de certains clients. Dans cette brasserie du 15e arrondissement de Paris, il y a toujours au moins 500 boîtes en aluminium d'avance.
Je vais gaspiller. Si les gens ils emportent, nous on jette beaucoup moins en cuisine. Les retours, tout ça, les chutes alimentaires, on en a beaucoup moins. Quoi.
Vous avez remarqué une diminution ?
Une petite diminution. Un tiers, c'est pas mal.
Les mentalités évoluent et les clients osent de plus en plus demander à emporter leurs restes. Ce midi, Laura et Saman ont mangé dans un restaurant vietnamien. Elles repartent avec presque la moitié de leur repas.
J'ai pas envie forcément de me forcer à terminer mon plat.
Moi, je suis canadienne. Chez nous, c'est tout le temps proposé.
Et c'est vrai que quand je déménageais en France, on ne me proposait pas, je passais plus le radar.
Une pratique qui se banalise. Alors oui, les doggy bags ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients, notamment en termes d'hygiène. Vincent est le gérant du café Les Écrivains à Paris.
Tout ce qui est tartare, de saumon, de viande, ces produits-là, nous allons éviter de les faire en doggy bag, tout simplement.
Une fois remis au client, le plat n'est toutefois plus sous la responsabilité du restaurateur. Pour les contenants, il est possible de ramener ses propres boîtes si vous ne souhaitez pas d'emballage carton ou aluminium.
Philippine Loisel, le retour des grèves dans les transports appelle à cesser le travail à la SNCF par la CGT pour ce grand week-end de départ en vacances. Les perturbations dans les gares devraient toutefois être limitées. Et puis chez Aéroports de Paris, le mouvement est lancé jusqu'au 5 juillet. Il s'agit de protester contre les baisses de rémunération. La direction d'ADP prévient qu'il pourrait y avoir des difficultés sur la route pour accéder aux aéroports et des retards sur certains vols. À présent, il s'agit du traité international le plus ambitieux en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pourtant, c'est aujourd'hui que la Turquie se retire officiellement de la convention dite d'Istanbul. Et cela sur décret du président turc Erdogan. Il faut savoir que 300 femmes sont mortes sous les coups d'un conjoint violent en 2020. Le retrait de la Turquie de ce traité bafoue les droits de millions de femmes et de jeunes filles turques et va à l'encontre des engagements du gouvernement pour protéger les victimes d'agressions sexuelles et de violences domestiques. Conséquence, le mouvement féministe se renforce et de plus en plus de lycéennes viennent grossir les rangs des manifestations. À Istanbul, la correspondance d'Anne Handlauer.
Beste et Denise ont 17 ans, jeunes féministes dans un pays qui, à compter de ce 1er juillet, ne reconnaît plus la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Pour Beste, le retrait de la Turquie a d'abord été un choc, puis un catalyseur.
Ça a été une énorme déception, mais je crois que cette décision a poussé toutes les féministes à se mobiliser, car on se rend bien compte que c'est de pire en pire et qu'on doit arrêter ça toutes ensemble.
Depuis une dizaine d'années, le mouvement féministe prend de l'ampleur en Turquie. Elles font partie des rares à n'avoir pas déserté la rue sous l'effet de la répression de la pré-tentative de putsch de l'été 2016. Denise vit son engagement comme un devoir envers les femmes assassinées, au moins 300 l'année dernière, et celles qui luttent contre les violences.
Beaucoup de femmes sont tuées parce qu'elles ont voulu divorcer et que leur mari le refusait. Elles divorcent alors qu'elles savent qu'elles subiront encore plus de violences. Nous continuerons de tout faire pour que la Convention d'Istanbul soit appliquée. C'est un combat pour le droit des femmes à la vie.
Les ONG féministes ont appelé à manifester ce 1er juillet à travers toute la Turquie. Anne Handlauer, Istanbul, RFI pour France Inter.
Et aux États-Unis, se camoufler pour le mouvement MeToo suite à une décision de la Cour suprême de Pennsylvanie. L'acteur Bill Cosby est sorti de prison. Il avait été accusé par plus de 60 femmes. Les faits étaient tous prescrits, sauf un qui avait entraîné sa condamnation en 2018. Sa peine vient d'être annulée pour des raisons de procédure.
Il est 7h37. C'était il y a deux mois, Laurence, le 28 avril dernier. La France a arrêté sept anciens membres des Brigades Rouges réclamés par l'Italie.
Ils sont âgés de 63 à 77 ans. Ils ont refait leur vie en France. Et à la faveur de la doctrine Mitterrand, la France ne peut pas extrader ses anciens militants de l'extrême gauche italienne parce qu'ils ont rompu avec la violence. Mais l'Italie ne cesse de les réclamer. Et hier, Corinne Audouin, la chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris, examinait le cas de trois hommes.
C'est un homme élégant dans son costume gris clair. Raphaël Eventura, 71 ans, commence d'emblée par corriger la demande d'extradition formulée par l'Italie. « Mon deuxième prénom, c'est Silvio et pas Sergio », dit-il. La justice italienne l'a condamné pour le meurtre d'un policier lors d'une manifestation à Milan en 77. Exilé en France depuis 82, il a été jugé en son absence pour ce crime qu'il conteste. « Je suis naturalisé depuis 86. Je peux être un exemple d'intégration à la française », sourit cet homme devenu documentariste. Il se dit un peu perdu, son avocat Jean-Pierre Mignard.
Vous vous rendez compte, 40 ans après, d'ailleurs 40 ans après, il a été jugé par contumace. D'abord, il ne peut pas être jugé. Et comment voulez-vous même rejuger des gens 40 ans après? Il n'y a plus de preuves, les gens sont décédés, ils ont disparu, on ne sait plus rien. Donc vous voyez même la situation extrêmement difficile dans laquelle on met la Cour d'appel de Paris.
Le parquet général abonde, impossible de statuer en l'état, il manque des pièces, les décisions de la justice italienne ne sont pas traduites, on n'a même pas la date d'une précédente demande d'extradition, s'agace l'avocate générale qui demande à la Cour d'ordonner un complément d'information. L'Italie est d'accord pour répondre à tout, assure l'avocat qui représente l'état requérant. Je vous demande juste d'examiner ces demandes car nous devons aussi répondre aux familles des victimes.
Corinne Audouin, et la Cour se prononcera le 29 septembre sur cette demande de complément d'information. La menace de la mairie de Paris envers les trottinettes électriques. Elle pourrait ne pas renouveler le contrat des 3 opérateurs s'ils ne font pas des progrès sur la limitation de la vitesse et du stationnement de ces trottinettes. Et cela surtout après la mort d'une femme le 14 juin, percutée par un engin alors qu'elle se trouvait sur une voie piétonne. Comment lutter contre l'anarchie sur la route et surtout comment s'adapter à ces nouvelles pratiques de transport? Élément de réponse avec Mathilde Dehimy.
Gare à l'embouteillage sur les trottoirs et pistes cyclables, le confinement a donné de nouvelles envies aux Français. Moins de transports en commun, plus de marches, voitures, vélos ou trottinettes électriques. Ce que confirme une enquête de la prévention routière, sa déléguée générale Anne Lavaux.
Ce sont quand même des modes de déplacement qui sont nouveaux, pour lesquels on n'a pas forcément les bons réflexes. On se trouve dans une période un peu charnière, dangereuse, pour tous les autres usagers et pour soi-même.
La loi mobilité a encadré l'usage des trottinettes. Un seul passager, pas plus de 25 km/h, pas sur les trottoirs. À l'époque, Anne Lavaux voulait déjà aller plus loin.
On disait, il faut le casque obligatoire. On n'a pas été suivi malheureusement, mais c'était important d'installer ces réflexes de sécurité avec le développement de la pratique.
Paris demande de brider par endroits les engins à 10 km/h. Lyon l'a fait depuis 2 ans pour l'hypercentre. Valentin Lungenstrasse, adjoint à la mobilité.
Il y a de la pédagogie à faire sur les trottoirs ou la circulation en slalom quand on n'est pas dans une aire piétonne. Les opérateurs doivent faire beaucoup plus pour faire respecter le code de la route par les usagers. Après, avec des nouveaux aménagements cyclables, on vient aussi sécuriser ces déplacements et limiter les conflits, notamment avec les piétons, mais aussi avec les automobiles.
Et pour lutter contre les stationnements anarchiques, source d'accidents, plusieurs villes, dont Lyon, contraignent les trottinettes à se garer dans des zones imposées par géolocalisation.
Mathilde Dehimy.
Merci Laurence Thomas. L'édito politique à suivre.